l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Invité aujourd'hui sur les ondes de Grand Sud FM, Jacques Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui encore président de la commission archéologique de Narbonne. Vous avez été un des, on pourrait dire, des porteurs du musée Narbovia qui vient de s'ouvrir au public. Alors c'est le moment, me semble-t-il, de revenir un petit peu d'abord sur l'historique de ce musée. Et je crois, Jacques Michaud, que vous y êtes un peu pour quelque chose 30 ou 40 ans en arrière.
C'est vrai, mais ça relève de l'anecdote, mais pourtant c'est exact. C'est une visite de Georges Frêche, qui venait d'être nommé professeur de droit romain à la faculté de droit. Moi, j'étais encore assistant, je n'étais professeur qu'après, et il m'a dit « Je veux connaître ta ville de Narbonne, qui est une grande capitale. » Alors, un dimanche, nous sommes venus passer la journée à Narbonne, et je me souviendrai toujours de son exclamation, lorsqu'à la fin de l'après-midi, il commençait à pleuvoir un peu, nous rentrons au musée Lamourguet, il a poussé un grand cri, il m'a dit « Mais vous laissez ça comme ça, mais c'est un trésor. Mais moi, si j'étais quelqu'un, je te ferais un musée. » J'essaie de refaire son accent parce qu'il l'a dit à sa façon rocailleuse. Mais c'est parti de là. Et 30 ans après, il me téléphone. Il venait d'être élu président de région. Il me dit, alors, on se le fait, ce musée? Alors, je lui dis, vite, on va venir signer. Alors, il me dit, faut appeler Bascou. Alors, j'ai vite appelé Bascou qui m'a dit, vite, nous partons pour Montpellier. Voilà. Et c'est comme ça que c'est né. Et là, il a suivi l'affaire. Il est venu le présenter lui-même dans la salle des consuls. Il y avait un monde fou, je me rappelle. Et c'est bien comme ça que ça s'est passé. Il m'a bombardé. Des présidents du comité scientifique avec mission de faire un grand musée. Voilà.
Donc, intéressant ce côté tout à fait anecdotique qui débouche finalement sur un pari qui était peut-être un peu fou au début, dans la mesure où c'est vrai que la capitale Narbonne romaine, à part des pierres, on n'en voit pas grand-chose. Et pour le non-spécialiste, ce n'est pas évident à appréhender.
Ah oui, on cherche Rome comme Diogène cherchait un homme. Mais Frêche, lui, savait. Et il a su très vite lire à travers ce qui nous reste d'éléments, il a su très vite lire la grandeur et l'importance de Narbonne, au point d'ailleurs qu'il me disait qu'il aurait aimé en faire la capitale de la région. Comme me l'avait dit d'ailleurs le préfet Bentejac, qui me disait la préfecture de région devrait être à Narbonne. Alors c'est le nom de capitale.
Bon, on n'a déjà pas eu la préfecture du département, alors
c'est
la
région. C'est fini.
On va pas refaire l'histoire, Jacques Michaud. Mais justement, à propos d'histoire, ce musée Narbovia avait d'abord un autre nom un petit peu bizarre, pas très exotique, Murena.
Mais, oui, oh, là aussi c'est l'anecdote, maintenant il faudra l'oublier. Mais le conseil scientifique a appris un jour avec stupeur, qu'avant qu'il ait pu proposer le nom, dont on l'avait chargé, les gens de Montpellier, en bonne foi peut-être, avaient eu une idée. Et l'idée c'était de dire musée régional de Narbonne antique, donc ça fait Murena, mais Murena ça fait romain. Et oui, sauf que, évidemment.
Sauf que,
il y a eu un Licinius Murena qui a gouverné la région, oui. Et il était connu pour être un voyou. Et il prenait l'argent de Mithridate pour acheter les électeurs. Vous voyez un peu les amalgames
bon,
que l'on
déjà,
faire.
Piètre c'est, figure. Voilà. Plus que Murena, le poisson, et la Murène.
L'horrible Murène, poisson ignoble s'il en est. D'ailleurs, on jetait les esclaves pour les punir d'avoir mal obéi. On les jetait aux Murènes.
Pour se faire bouffer, quoi.
Mais oui, ad Murena sont criés. C'était extraordinaire. Et puis enfin, il y avait la revue Murena. C'est un des responsables culturels de la région, qui n'y est plus maintenant, Dieu merci, me dit, mais enfin, il y a une revue très belle, une revue en Belgique qui s'appelle Murena et qui restaure très bien l'idée de l'Antiquité. Le premier numéro sur lequel je suis tombé était un numéro pas sortable. Les dames romaines y étaient dans des postures pas possibles, poursuivies par des esclaves. Et il ne manquait plus que d'entendre
scène d'orgie, c'était une scène d'orgie.
Voilà, alors je pense que ça a achevé d'affoler le président Bourquin qui a dit nous allons être ridicules.
Voilà, donc on est passé à Narbovia. Voilà. Je crois que vous avez aussi, Jacques Michaud, poussé un peu vers cette nomination.
Oui, c'est le fruit d'un repas de travail avec Mme Delga et auquel participait le DGS de la région, M. Meuch, et on a négocié sur cela. Et bon, je dis écoutez, il faut qu'il y ait au moins le nom de Narbonne, parce que même des Murènes, il y en a partout, hélas. Mais le nom de Narbonne, il faut qu'il ressort. Narbo, c'est un nom fort, qui était connu dans tout le bassin méditerranéen.
Voilà, donc Narbo.
Alors, on a besoin de Narbo. Et le DGS, d'ailleurs, a dit, mais vous parlez de tous les deux de via, de la voie, mais Narbo, via, Narbonne est un chemin. Et c'est, effectivement, c'est l'idéal de ce musée.
Et c'est comme ça que c'est né. Et donc, aujourd'hui, Narbo via, le nom existe, le musée Il existe, d'ailleurs on a fait appel à un architecte de renom pour le construire, hein, Norman Foster et son équipe. Et alors maintenant, comment est-ce qu'il va fonctionner ce musée ? Alors apparemment, on sait qu'on a beaucoup de pierres, on va les utiliser, mais de quelle façon ? Pouvez-vous faire passer ce message aux auditeurs, Jacques Michaud ?
Eh bien, écoutez, d'abord, le cadre architectural est absolument remarquable. Je pense qu'il n'y aura pas là-dessus la moindre contestation. Il s'agit d'un véritable monument à l'antique, quand on est dedans, et en même temps, il est terriblement discret. Il n'impacte même pas sur le paysage. Et ça, c'est quand même une grande qualité dans ce lieu. Et là-dedans, eh bien, on va avoir une exposition de tous les indices qui conduisent à dire que Narbonne était vraiment une capitale. Ça va être le musée de la réminiscence. On va voir chronologiquement, d'abord, ce que les Romains ont trouvé en arrivant à Montlaurès. Montlaurès qui était déjà la capitale d'un royaume que Avienus jugeait féroce. Le royaume qui allait de la Glie jusqu'à l'Hérault, le royaume de Montlaurès, les Élysiques. Les Élysiques rencontrés par Hercule lui-même, dit la tradition tenace.
Alors, donc, déjà, Montlaurès, les Élysiques, mais ce musée qui existe et que l'on découvre maintenant, comment le décrire et donner l'envie aux auditeurs d'aller le voir ?
Là, les gens vont voir l'arrivée des Romains, la fondation de la Colonia, la première hors d'Italie. C'est la suite d'une grande crise sociale et agraire qui s'est déroulée à Rome et où l'avocat Licinius Crassus, qui parlait, paraît-il, magnifiquement, a réussi à convaincre les aristocrates qu'il fallait aller fonder une colonie, c'est-à-dire une prise de terre pour cultiver. Et c'est ainsi que des Romains en grand nombre ont quitté un beau jour.
Voilà comment ça s'est... Et ils ont atterri, si je puis dire.
Voilà.
Ah, ils ont traversé la mer,
ils sont arrivés ici, la plupart. Et puis, donc, on a créé la Colonia. Et cette Colonia sera manifestée par une véritable relique qui sera à l'entrée du musée, qui en devient... J'attire l'attention des auditeurs là-dessus. La fameuse borne miliaire, trouvée d'ailleurs, je la dis, à la limite de Sigean et de la Palme, et qui porte Domitius Aenobarbus Imperator, c'est-à-dire le général Domitius qui avait reçu les honneurs du triomphe, ce qui nous permet de dater.
Donc le grand symbole
symbole très important. Et qui de plus est la première inscription latine de la Gaule. C'est l'entrée du latin sur notre territoire. Si c'est pas quelque chose, je crois que ça c'est capital. Nous sommes le latin.
Voilà. Alors pour conclure donc encore une fois, ces pierres, on a une foison de pierres. Maintenant, comment les faire vivre en quelque sorte ? À la Mourguier, elles étaient entassées, mais ça n'était pas très convaincant.
C'est vrai. Ces pierres expriment bien l'histoire de Narbonne, dans leur désordre même. Parce que Narbonne a toujours été la ville du réemploi de pierres. On manquait d'une proximité de carrière. Et très souvent, on défaisait les monuments précédents pour construire les suivants. Et ce fut le cas des remparts.
Voilà. Et donc, on a ces pierres aujourd'hui. Et à partir de là, je pense que c'est ce qui a été présenté par Madame Delga, entre autres. On va les faire vivre, en quelque sorte.
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs à l'honneur de la Commission archéologique de Narbonne d'avoir récupéré toutes ces pierres pendant 10 ans de travail et de frais. Et maintenant, elles vont vivre, parce qu'on va leur donner leur signification, on va les mettre dans le contexte. Elles ont été nettoyées, on leur a enlevé le sel, on les a guéries des défauts de l'humidité, et elles apparaissent actuellement toutes dorées, magnifiques, très, très, très claires, et elles vont être éclairées, et on va pouvoir les compléter par des écrans. Lorsqu'il y a un fragment de monument, on verra le reste, etc., etc.
Donc il y aura des reconstitutions.
Elles seront terriblement suggérées. Et au fond,
qui vont faire vivre.
Tout à fait. Narbonne a des monuments romains, mais présentés comme ça.
Merci d'être venu nous rappeler à la fois cette genèse, cette anecdote, et puis nous donner un petit aperçu de ce que sera ce musée Narbovia. Merci Jacques Michaud.
Et merci à vous. Au revoir.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.